Laurent Duc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la branche hôtellerie de l'UMI, première organisation professionnelle des HCR. Nous sortons d'une conférence de presse où vous avez réuni vos collègues européens, 5 grandes organisations. Le constat est partagé, mais au-delà du constat, il faut sans doute maintenant ou très prochainement saisir les législateurs. S'agissant de la France, quelles sont vos initiatives en préparation pour que le contexte législatif et réglementaire évolue ?
Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais j'ai confiance dans Monsieur Macron et sa loi Noé, la nouvelle organisation économique, puisque je l'ai entendu largement dire que l'économie devait être nouvelle, mais on restait dans un pays jacobin et que tout le monde devait participer à la richesse et à la protection de tout le monde. Donc aujourd'hui, cette économie de partage pour nous est une économie de Robin des Bois où chacun tire la couverture à soi, voire des grands investisseurs internationaux sont capables de se faire passer pour un humble hôte. Regardez ce qui s'est passé à New York, il a été démontré qu'il y avait 3 propriétaires qui faisaient 40% du chiffre de Airbnb sur New York. Eh bien, on a les mêmes phénomènes à Rome, à Berlin, à Londres, à Barcelone, à Paris. Que l'économie de partage soit la vraie économie de partage.
Vous avez présenté 10 propositions communes, 10 positions communes entre vos organisations nationales et qui seront portées à un niveau européen. Toutefois, vous avez choisi la voie nationale pour défendre vos propositions auprès du législateur. Quelles sont vos priorités dans cette réforme nécessaire de cette économie pseudo-partagée de l'hébergement touristique ?
On est plus dans la concomitance avec nos collègues européens, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence européenne. Donc on essaye dans chacun de nos pays de faire avancer la réglementation, parce que saisir la Commission, saisir l'Europe, c'est 4-5 années supplémentaires qu'attend avec impatience et qu'ont attendu avec impatience des opérateurs précédents avec qui nous sommes battus, qui sont les ETA, qui auraient adoré qu'on parte à l'Europe pour pouvoir noyer ce poisson au milieu d'une enquête générale de tous les pays européens. Vous imaginez l'enquête de marché. Eh bien, c'est le même problème avec l'économie de partage. À part sur les problèmes de TVA, qui sont des problèmes européens, et on aimerait bien que cette TVA soit applicable à ce type d'hébergement, et il faudrait un texte européen là-dessus. Mais on voudrait quand même que la transparence soit fiscale et elle soit dans nos pays réciproques.
La transparence fiscale passe d'abord par un enregistrement des acteurs particuliers ou semi-particuliers ou professionnels.
C'est le point numéro un pour pouvoir faire de l'hébergement, pour la sécurité de tout le monde, pour le contrôle général et pour la bienséance, savoir qui héberge quoi. Un enregistrement paraît indispensable. Aujourd'hui, nous sommes les seuls collecteurs d'informations sur les fiches de police. L'hébergement collaboratif ne le fait pas.
Pour autant, est-ce que les lois existantes régissant les meublés touristiques suffisent ? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir des dispositions spécifiques à ce type d'activité ?
Est-ce que les gens sont vraiment en meublé touristique ? Puisque la loi Allure prévoit que le changement en meublé touristique demande un changement de destination dans une ville comme Paris-Lyon. Et vous voyez bien que ce changement de destination, il n'est pas opéré. Que l'opacité de la collecte de la taxe de séjour que propose Airbnb va favoriser, va continuer, va faire perdurer le non-changement de destination. Et le cas du meublé touristique, c'est il y a un enregistrement, c'est prévu par le code du tourisme. Ils ne sont pas dans ce cadre-là, si seulement ils l'étaient.
Donc il faut bien des nouvelles mesures.
Non, il faut faire rentrer ces gens-là dans les mesures déjà existantes. Et certainement, la première opération sera l'inventaire et le numéro d'enregistrement.
Quel est l'enjeu réel pour votre profession, sachant qu'il s'agit tout de même d'un nouveau concurrent qui va s'installer, qui va entrer dans le paysage de l'hébergement touristique de manière durable?
Depuis 10 ans, il n'y a pas la création d'une seule chambre en France. Il y a 630 000 chambres. On perd un hôtel par jour. Pourquoi ? Parce que justement, l'ouverture de nouveaux marchés, l'ouverture de nouvelles offres, les résidences de tourisme préalablement, l'hébergement de plein air qui offre maintenant de l'hébergement en dur, on a une croissance touristique. Effectivement, le produit hôtelier, alors je dis pas qu'il n'est plus adapté, mais sur certaines formes de tourisme, il correspond peut-être moins au type de tourisme auquel les gens sont prêts à faire des concessions, ne pas avoir de ménage, qu'on leur serve pas à manger, etc. Ce qui était le cœur de métier de nos hôtels. Nous sommes restés avec ces obligations. Donc la transformation aujourd'hui de l'offre d'hébergement, eh bien, nous sommes contraints dans notre carcan réglementaire, à l'inverse de ce genre d'établissement qui, lui, n'a aucune contrainte, aucune obligation. Et c'est peut-être bien là le gap qu'il va falloir franchir. Est-ce qu'il nous faut, nous, amener les gens à nos obligations ou est-ce qu'il faut, nous, rejoindre cet hébergement qui est beaucoup moins obligataire que le nôtre ?
100 millions de visiteurs à l'horizon 2020, 110 millions pour certains, il va bien falloir quand même que l'offre soit à la mesure de cette demande.
C'est un vrai objectif. Il faut bien comprendre qu'on ne crée pas un hôtel en deux jours. Un hôtel, on le construit par rapport à des besoins, un investissement sur de nombreuses années. Il faut au moins 3 ans entre l'idée, l'achat, la concrétisation, la construction pour mettre un hôtel en place. Donc quand vous êtes au cœur d'un besoin exponentiel, le jour où vous ouvrez l'hôtel, vous êtes peut-être dans une récession de touristes. Et c'est bien plus compliqué que de faire des achats disséminés en fonction d'opportunités. Et effectivement, une chambre hôtelière rapporte au mètre carré plus qu'à le logement. Mais est-ce que dans une ville, ça doit être une ville musée avec du logement touristique ou une ville qui est peuplée de gens qui y habitent et qui reçoivent des gens ? Toute la question se pose là.
Priorité des semaines et mois à venir, c'est des décisions législatives et des contrôles.
Transparence, contrôle et enregistrement.
Laurent Duc, je vous remercie.
Merci beaucoup.